BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est quand même dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. On est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
19h, la deuxième heure de Good Evening Business, comme tous les soirs avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors on a des chiffres qui sont tombés ce matin.
Ils sont plutôt positifs.
Oui, qui laissent penser que peut-être finalement l'Europe pourrait échapper à la récession cette année 2023. Mais vous allez juger vous-même, on va voir tout ça bien sûr dans un instant.
Et nous parlerons aussi du fait que la France est en retard sur le déploiement des énergies renouvelables, que ce soit sur le solaire ou l'éolien. C'est d'ailleurs le seul État membre de l'Union européenne à ne toujours pas avoir atteint ses objectifs fixés en 2020 malgré sa grande façade maritime.
On verra ça dans un instant. Et puis un mot de nos invités de la prochaine heure. Dans un quart d'heure, c'est le patron de Carmat, Stéphane Pierre, qui viendra nous voir. Il va nous annoncer des objectifs financiers ambitieux, l'équilibre notamment d'ici quelques années.
Et puis 19h30, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Beaucoup de sujets à voir avec elle, évidemment. La crise, le pouvoir d'achat, le bras de fer avec les distributeurs, notamment la loi Descrozaille et même la réforme des retraites.
Ça en fait des sujets. Tout ça, plus bien autre chose, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Mais avant d'évoquer tous ces titres, ça vient de tomber. Ça concerne BNP Paribas, ça concerne le climat. On va voir tout ça avec Aude Karsulek. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
BNP annonce que d'ici 2030, elle aura mis fin à 80% des financements liés au pétrole. On se rappelle que la Banque française avait été mise en demeure par trois ONG qui voulaient engager une action en justice. Ben voilà l'heure de la réponse finalement.
Oui, alors l'annonce de ce soir, elle concerne l'accélération de la fin des financements des énergies fossiles, particulièrement le pétrole. Alors BNP ne finançait déjà plus de projets pétroliers depuis 2016, mais il y a encore dans ses comptes des encours de crédit liés à des projets antérieurs. 5 milliards d'euros aujourd'hui, il en restera moins d'un milliard d'ici 2030, c'est la promesse de BNP. La banque va laisser arriver à échéance ses financements sans les renouveler et en dirigeant aussi les nouveaux investissements vers des énergies bas carbone. BNP Paribas indique que le pivot dans ses financements a déjà eu lieu. Elle finance aujourd'hui plus les énergies renouvelables et le nucléaire que les énergies fossiles. 28 milliards d'euros pour les énergies bas carbone, 23 milliards d'euros pétrole et gaz. Alors il faut savoir aussi qu'il y avait un risque juridique à la clé parce que des ONG s'attaquaient à BNP en étant le premier financeur européen d'énergie fossile. Ces associations lui reprochaient de manquer à son devoir de vigilance, ce qui pouvait donner lieu à une action en justice. Fin octobre, ces associations avaient demandé à BNP de se mettre en conformité dans les 3 mois.
Voilà, grosse pression des ONG et donc pression croissante sur le secteur bancaire et lors des réponses du côté de BNP Paribas. Merci beaucoup Aude Karsulek avec nous sur BFM Business. 19h04. Comme quoi le pire n'est jamais certain finalement. Vous savez qu'il y a quelques semaines, la récession paraissait absolument inévitable dans la zone euro. Bonsoir Étienne Horry.
Bonsoir Guillaume.
On a des chiffres qui sont tombés ce matin qui nous laissent penser que finalement, on pourrait y échapper, ça se trouve, Étienne.
Oui, Guillaume, un indicateur vient de valider ce changement de tendance. L'indice PMI de S&P Global pour le mois de janvier est repassé au-dessus de la barre des 50 points. L'activité de la zone euro a donc retrouvé une légère croissance après 6 mois de contraction. Les perspectives d'activité à 12 mois se sont nettement améliorées par rapport au mois de décembre, indique le communiqué de S&P Global. La zone euro pourrait donc bel et bien échapper à une récession. Christine Lagarde s'était-elle montrée aussi optimiste lors du forum économique de Davos. L'année en cours ne sera pas brillante, mais bien meilleure que ce qu'on craignait, notamment parce que, je cite, les marchés du travail n'ont jamais été aussi dynamiques. En effet, le chômage s'est maintenu à 6,5% en novembre dans la zone euro, son plus bas historique.
Merci beaucoup, Étienne. Ah non, justement pour dire que la prudence reste de mise, parce que tout n'est pas rose.
Oui, tout à fait. Les deux locomotives de la zone euro, l'Allemagne et la France, naviguent toujours en eau trouble. Ouais. Selon l'indice PMI, l'industrie allemande est en récession. Et en France, l'activité est toujours en repli. Prudence surtout, car dans une semaine, la Banque Centrale Européenne se réunit pour décider d'une nouvelle hausse de taux qui viendrait jeter un coup de froid sur l'économie européenne.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Étienne Henry. Est-ce que vous partagez l'optimisme là, des dirigeants européens, des instituts de conjoncture ?
Oui, bien sûr, puisque l'économie, elle résiste, et ça c'est indéniable. Maintenant, elle résiste pourquoi ? Elle résiste bien parce que les différents gouvernements, en tout cas en Europe, ont mis beaucoup d'argent sur la table pour soutenir les ménages et les entreprises, notamment 700 milliards d'euros. Ces aides, elles ne vont pas durer, et donc il se peut que l'on passe d'un choc de l'offre à un problème de demande.
Oui. Plus d'optimisme de la part des dirigeants européens, à l'instar de Christine Lagarde notamment. Bah, tenez, justement, là où ça repart très très fort, c'est un bon indicateur, c'est du côté du port du Marseille. En témoignent les chiffres d'activité qui ont été dévoilés ce matin en 2022, sur place et en présence du nouveau président des lieux, un certain Christophe Castaner, bien sûr, Jean-Baptiste Huet.
L'an dernier, ce sont plus de 77 millions de tonnes de marchandises qui ont été traitées à Marseille-Fos. Mention spéciale pour les vracs liquides, d'abord le gaz naturel liquéfié. Les deux terminaux méthaniers ont tourné à plein régime, 8,5 millions de tonnes, soit 43% de croissance. Ensuite, même dynamique avec le pétrole, l'activité est au plus haut. Du côté des conteneurs, rarement on aura vu autant de boîtes sur les quais, 1 530 000 conteneurs transbordés en croissance de 3%. Des bonnes nouvelles également du côté des véhicules. L'usine Renault de Tanger et celle de Stellantis en Tunisie à Kenitra tournent à plein régime. Les importations de véhicules ont donc cru de 17%. Ça repart également du côté des passagers. Marseille a accueilli presque 3 millions de personnes, très proches de ses niveaux de 2019. Des résultats qui consolident Marseille-Fos comme le premier port de France et le sixième en Europe. Également beaucoup de projets dans les cartons qui devraient permettre d'améliorer encore cette position. Transport d'hydrogène, data center, accueil de câbles sous-marins ou encore usine d'éoliennes flottantes.
Jean-Baptiste Huet, en France, la réforme des retraites avec la prochaine journée d'action est prévue pour le 31 janvier prochain. Sauf que la CGT Cheminots et Sudrail préparent la suite à la SNCF. Ils ont proposé deux journées d'action aujourd'hui, 7 et 8 février, puis une grève reconductible à partir de mi-février, à moins, bien sûr, il le précise, que le gouvernement, évidemment, retire son projet. Gros plan social en vue chez l'Américain 3M. Conglomérat industriel annonce qu'il va licencier 2500 personnes à travers le monde, environ 3% de ses effectifs, en prévision, dit-il, de difficultés dues au ralentissement économique. Et puis c'était attendu, c'est officiel en France. Thierry Cotillard a été élu président des Mousquetaires, l'entité qui chapeaute notamment Intermarché. Il succède comme convenu à Didier Duhaupont. Il entend déjà, Thierry Cotillard, se concentrer résumant sur le discount. C'est ce qu'il a d'ores et déjà déclaré. 19h08, grosse colère de la filière betterave en France. Vous savez qu'hier, Paris s'est rangé à une décision européenne qui interdit aux agriculteurs l'utilisation des néonicotinoïdes. La filière le dit clairement, cette décision la met dans une situation absolument intenable. Pauline Tadevin.
Cette filière des betteraviers se dit au pied du mur. Jusqu'ici, elle bénéficiait d'une dérogation pour utiliser les néonicotinoïdes et empêcher ainsi les pucerons de contaminer les betteraves avec la jaunisse. En 2020, alors que cet insecticide avait été interdit, la jaunisse avait fait des ravages. En moyenne, près de 30% de la production partie en fumée. Les exploitations les plus touchées avaient perdu 70% de leur récolte. Et le problème, martèle les agriculteurs, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune alternative efficace aux néonicotinoïdes pour lutter contre cette jaunisse. D'après le syndicat des betteraviers, les spécialistes qui travaillent sur ces alternatives estiment que c'est peu probable que cela voit le jour avant 2026, avec peut-être des débuts de solutions en 2024. En attendant, les betteraviers qui doivent semer dans un mois et demi réclament un engagement de soutien financier de l'État en cas de perte à venir à cause de la jaunisse, parce que derrière les 23 500 producteurs de betteraves français, il y a les industriels, 21 sucreries en France. La filière, c'est pas moins de 80 000 emplois directs et indirects. De la betterave, on tire du sucre, on tire de l'éthanol, on tire de l'alcool utilisé en pharmacie ou pour les spiritueux par exemple. Un marché estimé à 2 à 3 milliards d'euros. Le risque, d'après la FNSEA, le principal syndicat agricole, c'est de devoir importer. Et c'est toujours la même question qui revient, celle de la souveraineté alimentaire du pays.
Voilà, énorme marché, colère de la filière betterave. On en parlera, je vous le disais, à 19h30 avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui sera avec nous sur BFM Business. Et puis on rappelle cette belle levée de fonds annoncée ce matin. Pascal, spécialisé dans l'informatique quantique, qui lève 100 millions d'euros pour développer des applications pratiques qu'on devrait voir d'ici 2 ans environ. Jean-Baptiste Huet.
À la différence d'un ordinateur classique qui aligne les calculs les uns après les autres, l'ordinateur quantique les effectue tous en même temps, en une fraction de seconde. La start-up Pascal travaille tout particulièrement sur la technologie à base d'atomes neutres. Un laser va dompter les particules et ainsi les maintenir plus longtemps dans leur état de superposition. Une superposition qui permet justement d'effectuer les calculs simultanément. L'entreprise a déjà séduit plusieurs industriels comme BMW qui étudie la déformation des matériaux ou le Crédit Agricole dans la gestion des risques. Avec cette levée de 100 millions, Pascal prévoit d'augmenter sa production d'ordinateurs quantique, d'accélérer le développement de ces algorithmes. Les secteurs comme la chimie, l'automobile, l'aéronautique, la finance, dont les besoins en calcul sont immenses, salivent déjà en pensant aux gains techniques et financiers que pourrait leur apporter l'informatique quantique. Gestion de portefeuille, amélioration du design des avions, efficacité énergétique, une technologie qui donne déjà le tournis mystérieuse qui va encore nécessiter de très longues années de travail et donc des investissements importants pour rivaliser notamment face aux Américains.
C'est une belle levée, Audrey, hein, sur un secteur sur lequel on est en pointe vraiment en France, c'est le quantique.
Absolument, puisque vous savez, la France est le pays d'Europe qui compte le plus d'acteurs dans l'ordinateur quantique, en tout cas en Europe. Maintenant, le risque quand même pour l'avenir de cette filière, c'est que les jeunes pousses françaises, elles sont évidemment attirées par les investissements étrangers. C'est le cas de Pascal qui vient de lever ses 100 millions d'euros auprès de fonds saoudiens et de fonds singapouriens. Et donc, on a quand même un enjeu de souveraineté nationale.
Et en ce moment, qu'on trouve pas toujours en France aujourd'hui encore, malheureusement, en 2023. Voilà pour Pascal, donc la belle levée de fées du jour sur BFM Business, 19h11. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à Paris. On a fini dans le vert. Ce soir encore sur le CAC 40, plus 0,26%, 7050 points pour l'indice parisien. Bonsoir Sabrina Quagliozzi. C'est vert chez vous aussi apparemment, Sabrina.
Bonsoir.
Ou peut-être pas.
C'est assez partagé en fait, on hésite pas mal depuis ce matin l'ouverture entre la hausse et la baisse. En tout cas sur l'indice Dow Jones, actuellement petite hausse de 0,14%. On est à 33 676 points. Pour le S&P 500 en revanche, on reste en rouge mais on préserve les 4000 points. Le Nasdaq de son côté perd 0,2%, 11 340 points. Dans une séance marquée essentiellement par les résultats d'entreprise, c'est l'ensemble assez partagé. On a eu de bonnes nouvelles en provenance de certaines entreprises, General Electric, GE, qui a fait mieux que prévu sur son trimestre écoulé et qui grimpe, plus 0,7% actuellement. Vous avez dans la défense Lockheed Martin qui a publié là aussi des chiffres supérieurs aux attentes, des annonces qui ont été applaudies par le marché, plus 1,5% pour le titre Lockheed Martin actuellement. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien pour 3M qui perd plus de 5% après la publication de chiffres inférieurs aux attentes, prévisions également décevantes. 3M qui annonce des licenciements dans le sillage la demande, de la baisse de la demande pour ces produits. 3M donc sanctionné depuis ce matin. Et puis Johnson & Johnson également en repli suite à la publication de résultats mitigés, des prévisions décevantes avec un titre qui recule de 0,5%. Enfin, on notera le titre Bed Bath & Beyond, le retailer en grande difficulté, toujours porté par la spéculation puisque le titre prend encore aujourd'hui 13%, 3,33$. Dans un marché donc qui est partagé, le Dow Jones actuellement en hausse de 0,17%. En revanche, la baisse l'emporte pour le S&P 500 et l'indice Nasdaq.
Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve évidemment toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance du côté de Wall Street. 19h14, il a annoncé des prévisions optimistes, disons-le clairement, pour les années 2026-2027. Stéphane Pia, le directeur général de Karmat et ses cœurs artificiels, est avec nous dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
Notre deuxième Oui. Notre deuxième invité, c'est Stéphane Pia, le PDG de Karmat. Alors, c'est le secteur biomédical. Vous êtes concepteur et développeur d'un cœur artificiel. Bonsoir, Stéphane Pia.
Bonsoir.
Alors, vous êtes là pour une bonne nouvelle, puisque vous venez enfin d'annoncer vos prévisions et vous visez 10 à 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et vous dites que vous allez atteindre le seuil de rentabilité en 2027. Alors, pourquoi est-ce que vous sortez ces chiffres enfin? Est-ce que vous êtes plus serein par rapport à l'avenir?
Alors, être plus serein, non. Par contre, on a un vrai plan. Donc, c'est un exercice inhabituel, en effet. Rarement, pour une start-up, on se prononce autant à l'avance. Mais je pense que c'était nécessaire, dans la mesure où, aujourd'hui, il est très compliqué de trouver de l'argent sur les marchés. Oui. Les investisseurs, ils ont une aversion au risque de plus en plus prononcée, surtout dans le domaine de la santé. Et je pense qu'il était utile de déclarer un peu quels étaient nos objectifs.
Mais juste, vous me parlez des marchés, justement, les marchés en question n'ont pas très bien réagi à l'annonce de ces prévisions, puisqu'il y a une perte de 3% aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils voient justement dans vos prévisions plus de dettes que prévu?
Alors là, c'est compliqué d'interpréter le moins 3%. On a eu la discussion hier avec un membre du board. Alors, il faut savoir qu'avant d'annoncer la conférence, on était à 10,5. Ouais. En annonçant la conférence, on a été à 12. Bon. Là, on a perdu un peu sur l'annonce de la conférence. C'est compliqué, l'action, elle bouge tous les jours. J'ai regardé les volumes.
Vous n'êtes pas trop technique, c'est pas un signe de défiance pour vous suite à vos annonces, vous ne le voyez pas comme ça.
Non, enfin, en tout cas, pas du tout. Je pense plutôt, maintenant, je ne sais pas qui a vendu, mais en décembre, il y a beaucoup de... Alors, techniquement, hedge funds, des fonds spéculateurs qui avaient vu un prix très bas, qui ont investi. Probablement, ce sont eux qui ont profité des volumes pour sortir. Je ne sais pas, mais
bon, ça peut être ça. C'est compliqué. Une question quand même, parce que vous nous dites aujourd'hui encore, votre visibilité financière, elle est à 6 mois.
Oui.
Mais ça fait des années que vous venez nous voir et que régulièrement, vous nous dites, on a une visibilité financière à quelques mois finalement. Est-ce que ça tient au caractère relativement aléatoire de votre activité? Parce que c'est aléatoire, c'est de la santé, on ne sait jamais ce qui va arriver. Ou alors, est-ce qu'il y a un vrai problème pour vous en Europe pour avoir de la visibilité au-delà de 6 mois finalement? C'est quoi le problème?
Je pense que le sujet de base, c'est qu'on manque de fonds avec des poches profondes qui sont connaisseurs. Pour faire un peu de pédagogie, pour faire une valve de cœur percutanée avec des cathéters, pour arriver au marquage chez eux aujourd'hui, il faut entre 500 et 600 millions d'euros.
Ah oui.
Toutes les valves qui sont vendues il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas les citer. Il y en a qui font mieux, qui vont faire ça à 350, 400, mais c'est très compliqué. Donc, un cœur artificiel, c'est beaucoup plus. On a levé 480 et le message que je voulais donner hier, c'était dire, bon, on a levé beaucoup plus que ce qu'on devra lever. Donc, il faut se rassurer, on est proche du sommet. Mais il faut encore de l'argent. Donc, une start-up, c'est une start-up. Et la vraie difficulté, c'est que c'est vrai qu'on n'a jamais été capable de lever assez d'argent pour s'assurer un horizon de financement à 2 ans.
Oui, mais ça tient à quoi pour vous? C'est le problème de Carmat ou c'est le problème de beaucoup de start-up en France et en Europe finalement?
Je pense, vous savez, je vais pas citer les noms pour pas inquiéter vos auditeurs et puis pour pas stresser encore plus les dirigeants de ces sociétés, mais il y a des sociétés qui, si elles ne trouvent pas d'argent dans la santé, qui sont cotées chez Euronext Growth, qui ne trouvent pas d'argent d'ici 2-3 semaines, qui vont certainement mettre la clé sous la porte. C'est très compliqué aujourd'hui la santé, c'est d'autant plus compliqué pour les start-up. Et vous voyez des opérations qui se sont faites avec 6 mois. Dans le passé, ça n'existait pas.
Oui.
Qui investirait pour dire « je cherche de l'argent pour pouvoir durer encore 6 mois » Ça s'est fait en septembre pour 2 autres sociétés que je ne vais pas nommer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu du sauvetage. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à faire ces 2 opérations hyper rapides, une en avril et une en décembre. C'est ce qu'on appelle des pipes, c'est des placements privés avec un accès quand même au public, avec hors marché.
Ouais.
Et donc, on est obligé de penser à des outils hyper. Moi, je ne suis pas financier à la base.
Justement, si on se concentre sur votre plan de développement, vous avez des objectifs assez ambitieux finalement, puisque cette année, vous avez pour objectif de produire 100 cœurs artificiels, et l'année prochaine, c'est 500, c'est ça?
Non, on va construire une capacité, parce que bien sûr.
C'est à terme, 500.
La capacité, ouais.
Ah,
donc en fin d'année, théoriquement, si on avait toutes les pièces nécessaires, en appuyant sur le bouton, on pourrait commencer à faire 40 cœurs par mois. Donc ça, c'est la capacité. Donc on aura la capacité de le faire. Bien sûr, c'est en anticipant parce qu'on ne peut pas faire ça au dernier moment, c'est en anticipant des gros volumes. Donc pour arriver à une profitabilité à 4-5 ans, bien sûr, il va falloir qu'on anticipe une croissance de volume et les investissements. Donc le message, quel est-il? C'est que, premièrement, on doit commencer à faire des ventes sérieuses, autrement on n'y arrivera pas. On ne sera pas profitable dans 10 ans, mais avant. Et puis surtout, je pense, le premier message que vous disiez, est-ce que c'est propre aux startups? Et c'est un peu le message qu'on a donné hier concrètement. Il ne faut pas oublier qu'en 2007-2008, on était 3 sur la ligne de départ, qui faisaient le même projet. Aujourd'hui, il y a 2 autres sociétés, une suédoise, une australo-américaine, qui sont encore sur les animaux. Nous, on a quand même un site de production, on est commercialisé et on est aux US. Donc on a mis 6 ans. On a pris 6 ans d'avance en 12 ans sur les 2 autres projets qui font la même chose.
Et puis un autre message aussi pour le marché américain, puisque vous dites que vous lancerez commercialement en 2026 aux États-Unis.
Oui, donc c'est un stretch, comme dans toutes les sociétés où j'ai pu travailler, il faut se donner un objectif. Quand on avait dit le marquage CE en 2020, certes, on l'a eu fin du mois de décembre, mais on l'a eu en 2020.
Oui.
On va s'attacher à y arriver. Alors, c'est pas simple, mais on est là pour ça et on a un plan.
On augmente la production. Et alors, vous formez dans les hôpitaux, formez des personnels justement à
tout
cette
à
technique
fait. Alors, on a déjà plus de 16, 17 centres qui sont déjà prêts. Si on avait les produits, là, on appuierait sur le bouton, on commencerait à sélectionner les patients.
Donc, vous formez des personnels des hôpitaux en question qui seront en partie dédiés pour la technique Carmat.
Tout à fait. Donc, on en a déjà entre l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays. À peu près 16, si je me rappelle bien, qui sont déjà prêts, en Italie, etc., etc. On a 600 Français qui sont prêts pour efficace. On a commencé donc à Lille en décembre, et puis on va en former encore 12. Et on pourrait faire plus vite, mais on n'aura jamais assez de cœur. Donc, on va se limiter aux plus gros centres ou aux centres avec lesquels on se sent le mieux.
Alors, vous avez procédé à la fin de l'année à Lille à une implantation dans le cadre d'une étude clinique française qui s'appelle Efficace. Alors, sur quoi travaillez-vous sur quel perfectionnement en tout cas, est-ce que c'est sur une durée plus longue de survie justement après l'implantation du dispositif?
Alors, et non, Efficace, ce sera une étude qui sera beaucoup plus propre, parce que durant l'étude pivot, le produit, il a évolué 30 fois, parce qu'on a changé plein de choses. Donc là,
il faut être pédago, qu'est-ce que vous affinez, là, en fait?
Ben, là, normalement, cette étude, elle sera très détaillée. Donc, le but de cette étude, c'est démontrer que Carmat fonctionne bien. Donc là, cette fois-ci, on sait comment on sélectionne les patients. Ouais. On a tellement appris. Donc là, on va maximiser les chances de réussite de l'opération et de sélection de patients. C'est une étude qui est très poussée, donc on va mesurer l'impact de Carmat sur le système de santé au niveau économique contre quelques autres techniques, donc le non-traitement, le traitement avec organes avec un cœur humain ou avec les médicaments, et on va comparer tout ça. Et notre but, c'est de démontrer que Carmat, même au niveau économique, est une solution supérieure.
Ouais. Et la demande, alors, elle s'élève à combien de personnes dans le monde, et puis aussi, surtout, et à quel prix?
Ben alors oui, alors ça c'est une discussion qui pourrait être assez longue, mais bon, la demande aujourd'hui, c'est plus de 250 000 patients qui vont mourir dans l'année, qui ont besoin d'une transplantation.
Vous 250 000 n'avez... patients par an.
Par an, entre les États-Unis et l'Europe, sans compter l'Asie, etc., etc. Il n'y a pas de donneur, donc vous avez 5 500 organes cœur qui sont disponibles l'année. Donc l'équation elle est simple. Il n'y en a pas. Donc, tous ces patients-là vont mourir. Mais le sujet, c'est qu'on pourrait dire... Bon, oui, mais ces patients-là, ça va être 250 000, ça va devenir 500 000. Donc, ça croît de manière exponentielle.
Et vous nous dites que vous avez du mal à trouver des financements. C'est là qu'on ne comprend pas, quoi, finalement.
Bah oui, parce que... on me dit... Alors, il y a quelqu'un qui disait « Suffit de traverser la rue pour d'autres modes. » Bah là, c'est la même chose. On m'a dit « Mais va voir les milliardaires français, etc. etc. » Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et vous disiez tout à l'heure, on a beaucoup appris, mais au prix des quelques mésaventures que vous avez connues ces dernières années. Mais bon, voilà, ça fait partie un petit peu est-ce que vous avez l'impression que vous êtes immunisé contre certaines choses, finalement, certaines mésaventures qui pourraient vous amener à nouveau à suspendre l'ensemble de vos activités?
Oui, maintenant, on sait quels patients n'auront pas de complications post-opératoires. Ça, on ne savait pas, on affinait. On sait, au niveau de l'opération, maintenant, on sait sortir d'une opération avec un patient qui va bien et qu'on peut mobiliser au bout d'un jour ou deux. Donc ça a été vraiment une grosse avancée pour nous. C'est ce qu'on a appris pendant l'étude. On a eu des défections à cause de ça. Maintenant, bien sûr, au niveau qualité, je crois qu'on a vraiment dégrossi largement le trait. Est-ce qu'on aura d'autres problèmes? Certainement, mais je pense qu'on sera capable de les gérer. Ça sera minime le long de la route, et puis comme on le fait toujours. Et à un moment donné, on aura un produit qui sera super stable, et puis on commencera à implanter régulièrement.
Et vous poursuivez aussi très activement la formation de nouveaux hôpitaux, parce qu'on n'en a pas encore parlé.
Tout à fait.
Mais votre objectif, c'est quand même 30 centres opérationnels en Europe d'ici
la fin de l'année, et encore, 2023. On n'en forme pas beaucoup parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais les servir. Donc, on s'est concentré sur ceux avec qui on pense qu'on aura des meilleurs résultats parce qu'ils ont du volume, etc.
Combien il faut former quelqu'un à votre technique? Il faut combien de temps?
Alors, ce qu'on fait en général, alors maintenant, on a ouvert des centres en Allemagne, mais avant, c'était à Pompidou seulement. C'est qu'on fait une journée et demie et on a notamment une opération sur un veau, donc comme sur un humain, donc une opération de A à Z avec toute l'équipe. Donc, on enlève le cœur du veau, on met la machine Carmat, on la lance, et puis l'équipe peut comprendre comment ça fonctionne, toute leur équipe avec notre proctor. Et après, une fois qu'on a identifié un patient, deux jours avant, on va à l'hôpital et on fait quelques groupes de travail avec les infirmières, avec la personne qui fait la circulation extracorporelle, et puis on a des groupes de travail dédiés pour leur enseigner comment faire. Et puis deux jours après, on va en salle et c'est là que ça commence. Donc 9h le matin en général, anesthésie générale, on ouvre le thorax, on écarte, on coupe les artères et les veines, on clampe, on enlève le cœur, et puis c'est là qu'on commence toute l'opération.
Et alors, pour faire tout ça, aujourd'hui, Carmat, c'est 200 collaborateurs hautement qualifiés, c'est ça?
Oui, 215, tout à fait.
Et à la fin de l'année?
On sera autour de 270.
D'accord. Et vous recrutez quel type de profil?
Bah, là, un peu tout. Surtout des ingénieurs. Hein. Le gros de l'équipe Carmat, ce sont des ingénieurs en recherche et développement et en production.
Profitons-en pour passer le message.
Tant qu'à faire.
Tout à fait.
Et ben voilà pour les dernières prévisions de Carmat, qui voit 2027 seuil de rentabilité en 2027. Merci beaucoup Stéphane Piat. Merci de passer nous voir. Merci. Directeur général de Carmat avec nous. Alors, je résiste jamais à la tentation d'expliquer d'où vient le nom Carmat. Voilà. Car pour Alain Carpentier. C'est ça, inventeur du cœur artificiel, Mat pour Matra Défense, ex-groupe EADS, qui est à l'origine de tout ou partie de l'aventure, hein, c'est ça.
Tout à fait.
Et ça donne Carmat. Voilà, exactement. Merci beaucoup Stéphane Piat, merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business, dans Good Evening Business, 19h27. On vous redonne les titres dans un instant, puis dans un instant, c'est la présidente de la FNSEA
qui... Et oui, Christiane Lambert, qui nous rejoint pour 25 minutes d'échange sur tous les sujets, évidemment, de sa filière, des néonicotinoïdes.
Voilà, bravo.
Voilà, et on parlera aussi évidemment des retraites.
Et des négociations commerciales qui se poursuivent. Il reste un gros mois évidemment, elle a son mot à dire sur tous ces sujets. Voilà, on se retrouve dans un instant.
À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
19h30 sur BFM Business, Faiza Younzi nous redonne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir Faiza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors l'Europe va-t-elle échapper à la récession cet hiver? En tout cas, c'est ce que montre l'indice PMI Flash publié aujourd'hui. Il montre la résilience de l'économie en zone euro. L'activité a renoué avec la croissance en janvier après 6 mois de contraction. L'indice PMI composite, synthèse de l'industrie et des services, a progressé de 0,9 points à 50,2. C'est la première fois qu'il repasse au-dessus du seuil critique des 50 points depuis 2008. Juin. Toutefois, les nouvelles commandes à l'industrie, elles, ont continué de chuter. La mobilisation continue de s'organiser contre la réforme des retraites. La CGT Cheminots et Sudrail envisagent une grève reconductible à la SNCF dès la mi-février. Et ça devrait commencer par 2 jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains, soit 1 semaine avant la mobilisation nationale. La France n'en fait pas assez en matière d'énergie renouvelable et va passer à côté de ses objectifs à fin 2023. C'est ce que dit le baromètre Observer, que ce soit dans l'éolien ou dans le solaire, la production d'électricité renouvelable ne progresse pas assez rapidement. Pire, le pays s'éloigne de ses objectifs pour 2028 car il y a 2 principaux obstacles. La complexité administrative pour lancer les projets et l'opposition aux installations éoliennes qui sont systématiquement attaquées en justice. BNP Paribas veut diviser par 5 ses financements au secteur de la production pétrolière d'ici 2030. Objectif, les faire passer de 5 à moins d'un milliard d'euros. La banque veut aller plus loin que ses précédents engagements. Mais le raffinage et le gaz ne sont toujours pas concernés par ce nouvel objectif. Et puis BNP Paribas avait été mis en demeure par 3 ONG qui l'accusent de financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. La banque avait jusqu'à ce jeudi pour leur répondre. 3M va supprimer 2500 emplois après avoir annoncé une baisse de ses ventes et de ses bénéfices trimestriels. Impacté par le ralentissement de la demande et par l'inflation, le chiffre d'affaires a baissé de 6% à 8 milliards de dollars et ne se sera pas mieux cette année. Après Bob Dylan ou encore Bruce Springsteen, c'est Justin Bieber qui vend les droits de son catalogue musical, soit quasiment 300 titres sortis avant 2022. Le chanteur canadien les a cédés à la société Hypnosis pour 200 millions de dollars. On jette un œil à la bourse de Paris, le CAC 40 clôture en petite hausse ce soir. Il gagne 0,26%. L'indice parisien termine à 7050 points.
Merci beaucoup Faiza. 19h33, c'est l'heure de la grande interview sur BFM Business.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Notre dernière invitée, Audrey, ce soir, c'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui est avec nous. Bonsoir, Madame Lambert.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de choses à voir avec vous pendant une grosse vingtaine de minutes. Les négociations commerciales, la loi d'Escrozaille, bien sûr. La réforme des retraites, sur laquelle vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer par parler de ce sujet dont on a parlé depuis ce soir sur BFM Business. C'est la France qui a donc décidé de se plier à une décision européenne concernant l'usage des néonicotinoïdes.
Bravo Guillaume, vous l'avez dit sans problème.
Ça a été répété plein des fois aujourd'hui. Décision qui fait hurler les cultivateurs de betteraves françaises qui profitaient jusque-là d'une dérogation. Vous dites atterré par les conséquences potentielles de cette décision. Pourquoi Madame Lambert?
Pourquoi? Parce que nous sommes à 1 mois et demi, 2 mois des semis de betteraves. Les producteurs avaient prévu les semences, avaient tout prévu dans leur assolement. Et parce que cette décision intervient alors que la France avait décidé de donner 3 années de dérogation pour laisser le temps à la recherche de trouver des solutions pour se passer justement de l'enrobage des semences de betteraves avec des néonicotinoïdes.
Oui.
Donc c'est une décision de la Cour de justice européenne. Brutale, oui, parce qu'elle impacte très directement. La dernière fois que les agriculteurs planteurs de betteraves ont été victimes d'attaques de pucerons et de la jaunisse nanisante des betteraves, ça a coûté 200 millions d'euros aux producteurs et 6 à 700 millions d'euros aux sucreries. Le risque, c'est de voir la France privée de production de sucre, l'Europe aussi, et d'importer du sucre venant d'ailleurs, traité avec ces mêmes produits. Et ça, c'est complètement incompréhensible. Donc, nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités juridiques. Il semble qu'elles soient faibles. Par contre, le ministère s'est engagé à compenser.
Oui.
Et je pense qu'il faudra qu'il prévoie de bien compenser, parce que nous craignons qu'avec l'hiver doux que nous avions jusque-là, là, il fait froid, mais il a fait très doux, donc les pucerons avaient la vie belle, nous puissions avoir des attaques sur nos betteraves au printemps, cet été.
Oui, et puis on peut imaginer aussi que ça ait des impacts autres, parce que évidemment, si on a moins de betteraves, peut-être que le prix du sucre va augmenter, puisque forcément, on va être obligé d'en importer.
Alors, moins de betteraves, c'est moins de sucre, vous avez raison, c'est moins d'éthanol, le carburant en pointe, hein, le 10 est en train de monter en termes de consommation, plus 85% de recours à ce carburant peu cher grâce aux betteraves des planteurs. Oui. C'est moins de gel hydroalcoolique et c'est moins de tous les produits. Il y a aussi du sucre dans tous les jus de fruits, les desserts, l'industrie agroalimentaire.
Bien sûr.
Et si on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui sont venues s'installer en France, c'est parce que nous sommes un très gros pays producteur de betteraves en France et que nous prenons un risque, effectivement, de diminuer la production. Donc, le comble, c'est que Bruno Le Maire parle de relocalisation industrielle verte. Le ministère de l'Agriculture s'appelle aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Oui. Mmh. Et là, l'Europe va se priver brutalement parce qu'elle ne veut pas attendre un an de plus qu'on puisse avoir des solutions pour s'en passer.
Parce que, de toute façon, on devait en sortir en 2024. Mais est-ce que vous étiez prévenu de cette décision-là, le fait que...
Alors, nous étions prévenus que nous avions une dérogation et une possibilité jusqu'à 2024.
Oui.
Mais nous n'avions pas écho de cette décision brutale.
Mais vous l'attribuez à quoi, cette décision brutale, alors, finalement? Il y a bien une explication.
Écoutez, je pense qu'il y a eu des pressions de tous ordres pour la mettre en œuvre.
C'est-à-dire des lobbies.
Mais, pardon?
Des pressions des lobbies.
Oui, certainement, d'un certain nombre de lobbies, mais qui ne mesurent pas, justement, le nécessaire équilibre entre des avancées écologiques nécessaires, il n'y a pas de planète B, mais quand même le maintien de la sécurité alimentaire. À chaque fois que ces sujets sont évoqués, que ce soit à la COP21 pour le climat ou à la récente COP15, il a été dit, attention, il faut concilier sécurité alimentaire et protection de la planète. Or, vous le disiez vous-même, si on produit moins, ça coûtera plus cher. Qui en souffrira? Les plus pauvres et certains pays qui ont des vraies difficultés d'accès à l'alimentation.
Je rappelle juste pourquoi Robobrez, ce que vous dites, c'est qu'en 2020, quand cet insecticide avait été interdit, cette jaunisse avait fait beaucoup de ravages. En moyenne, 30% de la production était partie en fumée et certaines exploitations avaient perdu jusqu'à 70% de leur récolte.
Je peux vous dire que ceux qui avaient perdu 70% en 2020 vont certainement pas prendre le risque de planter à nouveau sans la protection pour leur culture.
Bien sûr.
Donc ils vont renoncer, ils sèmeront d'autres cultures, mais on risque de perdre effectivement un potentiel de production.
Oui.
Moins de cultures, moins de sucre, des prix plus élevés et des importations venant d'ailleurs qui ne respectent pas du tout nos règles.
Mais vous parliez de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté quand on sait qu'aujourd'hui c'est l'Espagne qui produit le plus de fruits et de légumes en Europe?
Oui, la France a laissé filer son agriculture. Nous le dénonçons depuis des années et nous constatons avec regret que pour des raisons de coûts plus importants, de délais administratifs beaucoup plus longs dans notre pays pour avoir des permis de construire, des autorisations, pour des raisons de restrictions de produits phytosanitaires plus draconiennes qu'ailleurs dans le monde ou en Europe. J'ai vu aujourd'hui Mme Pompili lors des vœux au ministère de la Transition énergétique. C'est vrai que nous nous rappelons tous de sa décision. Nous allons être les premiers, nous serons dans l'excellence et les autres pays suivront. Que nenni. Quand les pays ne suivent pas, la France s'isole, se prive d'eux et c'est ce qui nous a conduit à perdre et à faire qu'aujourd'hui on importe 60% de nos fruits, 40% de nos poulets et dans les cantines c'est 70% de poulets importés, aussi parce qu'il y a en France une tyrannie des prix bas pour s'alimenter. On a eu 8 années de baisse de prix. Dans les cantines, quand le prix de matière est à 1,80€, on nous dit c'est trop cher, il faut réduire encore. Les Français sont habitués à manger pas cher et c'est pas une bonne habitude parce que ça tarit l'économie agricole française.
On va en parler dans un instant.
On a perdu 100 000 exploitations, c'est parce qu'elles n'étaient pas en forme.
On va parler des prix dans un instant. Est-ce qu'il va y avoir des aides? Est-ce que vous êtes indemnisé du fait de cette décision brutale, comme vous dites, vous réclamez des aides aujourd'hui? Est-ce que vous allez les obtenir?
Alors,
est-ce que vous avez des contacts avec le ministère?
Bien sûr, une réunion a eu lieu hier entre mon syndicat des betteraviers, et Frank Sanders, son président, pour justement appréhender l'ampleur du désastre pour les producteurs en termes de production. C'est un coup au moral épouvantable. Hein. Je peux dire que le moral est très bas dans la plaine. Et donc, si le ministre dit qu'il va compenser entièrement, il faut qu'il commence entièrement. C'était 200 millions la dernière fois, 600, 700. Mais imaginez, on se prive de produire, on verse de l'argent sur la table. Et on va importer ce sucre-là. Je pense qu'un équilibre aurait pu être trouvé, d'autant que les betteraves,
vous allez être indemnisé. Vous allez être indemnisé.
Oui, mais enfin, les betteraves ne fleurissent pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi un non-sens écologique. Les betteraves ne fleurissent pas, donc il n'y a pas d'abeilles dans les champs de betteraves. Et c'est les betteraves qui vont trinquer. Oui. Donc c'est quand même difficile à expliquer et à admettre.
Et alors, Christiane Lambert, un mot sur les négociations commerciales en cours avec la grande distribution. Parce que il reste un mois, c'est ça?
Oui,
jusqu'à l'heure issue. Voilà un grand mois. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la grande distribution est moins disposée à se coucher devant les grandes marques que devant les petits producteurs locaux? Est-ce que c'est encore le cas?
En tout cas, la démonstration qu'ils ont faite la semaine dernière montre effectivement qu'ils sont toujours adeptes de prix bas pour se faire la guerre des parts de marché. Ouais, ouais. Pendant 10 ans, il y a eu des baisses de prix. Pendant 10 ans, l'inflation alimentaire a été inférieure au coût de la vie en général. Et là, pour la première fois depuis 1985, le coût de l'alimentation, l'inflation alimentaire est plus élevée que l'inflation en général. Mais en France, elle est de 12% quand elle est de 16% en moyenne en Europe et de 20% en Allemagne. Oui. Mais quand nos industriels font des demandes de hausse de prix en Allemagne et ailleurs, ils ont la totalité de la demande. En France, il y a toujours cette tyrannie de prix bas poussée par les distributeurs. Et il y a des mauvaises habitudes qui ont été données aux consommateurs français. Venez chez moi, c'est moins cher, vous mangerez mieux et moins cher.
Mais ça, alors, qu'est-ce qui reste précisément de la loi Egalim 2?
Alors, la loi Egalim 2, c'est pour cette raison que les distributeurs la combattent.
Ben oui.
Parce qu'elle a protégé les producteurs. Ouais. Elle était faite pour protéger le revenu des agriculteurs. Et disons-le, et je le dis, elle a plutôt réussi, puisque le dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances dit que pour les agriculteurs, c'est plus 12 points de marge, c'est moins 1% pour les distributeurs seulement, et ils avaient des marges confortables, mais c'est moins 16 pour les industriels, qui eux n'ont pas pu répercuter. Il y a un dispositif dans la loi Egalim 2 qui dit on ne peut pas négocier la matière première dès lors qu'elle a été payée à l'agriculteur. Et par contre, les industriels, pour leur coût de main d'œuvre, d'énergie, de carton, d'emballage, la distribution leur dit, passez votre chemin, il n'y a rien pour vous. Si on perd nos industries agroalimentaires, les ports de mon exploitation, s'ils n'ont plus d'industrie pour les transformer, je perdrai moi aussi mes possibilités de production. Donc c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui doit se retrouver. Et comme la distribution a été habituée à faire la loi, voir cette loi qui la contraint, évidemment, ça les met dans tous leurs états.
Comment elles se passent les négociations commerciales en ce moment? Des échos que vous avez aujourd'hui?
Alors c'est difficile.
On sait que c'est difficile tous les ans. Est-ce que c'est particulièrement exacerbé cette année?
Peut-être cette année que les années précédentes.
Non, c'est pas plus serein cette année que les autres années, quand les industriels demandent plus 12. Parce que de quoi parlons-nous? Les coûts pour produire ont augmenté.
Bien sûr.
Plus 35% de coûts de production dans mon exploitation en moyenne. Si je ne peux pas répercuter c'est plus 35%, je vais travailler à perte. Est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs, vous allez être payés moins cher parce qu'il faut que les consommateurs mangent pas cher? C'est difficile. On a eu des années de revenus très bas en agriculture, ce qui est métier moins attractif. On a perdu des agriculteurs, on n'attire plus les jeunes. Donc il faut qu'on retrouve de revenus. On le retrouve aujourd'hui. Enfin, mais on retrouve notre revenu de 1980. Et les distributeurs aujourd'hui, qui ont été habitués à négocier âprement, vivent très mal le fait d'être obligés de respecter cette loi-là. Donc,
On sent bien que désormais, ils vont quand même devoir écouter un peu plus les fournisseurs et peut-être aussi les agriculteurs que vous représentez, justement face à la hausse des coûts divers et variés. Peut-être
qu'est-ce qui se passe par exemple dans le secteur de la viande bovine, où les producteurs ont été sous-payés longtemps. C'était les niveaux les plus bas des revenus des agriculteurs.
C'est là où les prix explosent de plus.
Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les prix explosent. Pourquoi? Parce qu'il y a une décapitalisation. Les agriculteurs qui n'avaient plus confiance vendent leur cheptel reproducteur. Il y a moins de viande en France. Et donc, ils doivent la payer plus cher s'ils veulent en avoir. Produire moins, c'est produire de la faim et c'est produire des prix plus élevés. Donc, je crois que maintenir la production, c'est aussi que les distributeurs jouent le jeu d'expliquer à l'opinion publique, aux consommateurs et à leurs clients, pour garder la production en France, pour garder vos emplois en France avec l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, premier secteur employeur de main-d'œuvre en France, l'industrie agroalimentaire, eh bien, ça a un prix.
Mais alors, justement, en parlant de prix, on va parler de la loi des croisailles. Donc, elle a été adoptée à l'unanimité. Est-ce que c'est une victoire pour vous?
C'est une avancée importante parce que le premier objectif de la loi des croisailles, et c'était de pérenniser le dispositif, seuil de revente à perte plus 10%, pour éviter qu'ils fassent marge zéro, donc ils vendent à perte, et reconduction de l'encadrement des promotions. La bête noire d'un certain nombre de distributeurs qui avaient habitué les consommateurs à en acheter un gratuit. Il n'était pas gratuit, il était bien payé par quelqu'un, il était offert, mais très souvent, c'est nous, producteurs, qui en faisions les frais. Et cette loi, elle veut aussi protéger un peu plus les industriels dans leurs négociations pour qu'ils puissent passer la hausse de l'énergie, du travail, plus 10% du SMIC depuis 2 ans, des transports, de la logistique, etc. C'est juste normal que les industriels puissent aussi passer ces hausses.
Vous avez bien compris, du côté de Bercy, on ne regarde pas tout ça d'un très bon oeil, cette loi des croisades, d'autant que vous voyez les grands patrons de l'industrie, de la grande distribution, faire la tournée des plateaux pour dire attention, je ne vais pas pouvoir suivre et je vais devoir augmenter mes prix de manière significative. Oui. Vous avez bien vu ce qui se passe depuis 15 jours maintenant.
Bien sûr. J'ai vu les distributeurs tous et les plus bavards.
Pas cité de nom, mais on sait. Voilà,
encore
on sait,
plus souvent sur les plateaux, effectivement. Dire nous allons avoir jusqu'à 30-40% d'inflation, c'est jamais arrivé. Je vous répète, 12% en France, 16% en moyenne en Europe, 21% en Allemagne, et les Français ne sont pas dans la rue et les distributeurs ne sont pas aux abois comme en France. C'est-à-dire qu'il y a cette habitude de distributeurs en France, avec parfois la complicité de certaines personnes à Bercy aussi, de dire les grands défenseurs du pouvoir d'achat, c'est nous. Ils défendent d'abord leur part de marché et leur marge. Je crois qu'il faut se le dire quand même. Ils ne sont pas parmi les plus pauvres de la Terre. Donc, voilà,
pourquoi ça vous dites avec la complicité de certaines personnes à Bercy ?
Parce qu'il y a, vous le savez bien, à Bercy, un certain nombre de personnes qui comptent sur les distributeurs pour tirer vers les prix vers le bas. Donc le lundi, ils disent oui, les agriculteurs, nous allons vous soutenir. Le mardi, relocalisation industrielle verte, gardons les usines en France. Et le mercredi, ils seraient tentés de dire des prix bas, des prix bas. Quitte à proposer un panier à prix bradé, ce que nous ne cautionnons pas, qui aura-t-il dans ce panier pas cher ? Des produits importés ? Est-ce qu'ils passeront à côté des promotions ?
C'est comme ça que ça risque de se passer.
Nous ne voulons pas. Et ce panier sera-t-il accessible à tous ? À vous, à moi, qui n'avons pas le même problème de pouvoir d'achat que les 2,5 millions de personnes pauvres ayant droits sociaux qui ont besoin, eux, d'alimentation. Donc il faut que ce soit ciblé. Nous avions proposé un chèque alimentaire pour les plus défavorisés. Ça a été étudié, ça a été abandonné. Nous souhaitons que l'aide, si c'est un panier, c'est un panier, peu importe, mais que ce soit ciblé sur ceux qui en ont besoin. Mon voisin, mes amis qui gagnent 4-5 000 euros par mois, ils peuvent payer leur alimentation. Celui qui gagne 1 200 euros par mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et je le comprends, tout comme les personnes isolées, les retraités à faible retraite, etc.
Alors justement,
une politique égalitaire, elle est injuste. Il faut que ce soit ciblé.
Oui. Non, mais en parlant des plus vulnérables, sur le sujet de la réforme des retraites, se pose ou se repose peut-être la question de la pénibilité, justement, des carrières dans le secteur agricole. Est-ce que vous trouvez votre compte, justement, dans cette réforme qui a été présentée par le gouvernement ?
Alors, l'âge moyen de départ à la retraite pour un agriculteur, c'est 63,5 ans. Donc vous voyez que 64, ça ne nous effraie pas trop.
C'est une virgule.
Dire aussi que pour l'agriculture, nous allons garder notre régime de mutualité sociale agricole. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis il y a une loi plus intéressante pour nous que la loi Macron, enfin que le dispositif de la réforme Macron, c'est la proposition qui a été faite de calculer la retraite des agriculteurs sur les 25 meilleures années et non pas sur la carrière entière. Nous sommes la seule profession à être calculée sur notre carrière entière. C'est pas normal.
Non.
Il faut prendre les 25 meilleures années, ce qui permettra aux agriculteurs de sortir de leur situation de retraite plus basse, 1053 euros en moyenne, alors que la moyenne des retraites pour les Français, elle est aux alentours entre 1300 et 1400 euros. Mmh. Donc ça va nous permettre de rattraper une partie de notre retard.
Vous dites en tout cas que pour le secteur agricole, c'est une réforme qui est juste.
Oui, enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous la comprenons. Le fait de pouvoir conjuguer aussi la retraite et le travail à la fin, alors qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible, c'est aussi quelque chose qui convient à notre secteur.
Il y a la question des carrières longues, pour ceux notamment qui ont commencé à travailler avant 18, voire avant 16 ans, parce que ça existe, c'est pas anodin, c'est pas un phénomène isolé dans votre secteur. Est-ce que vous y trouvez votre compte ? Vous avez vu cette polémique notamment qui voudrait que ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans vont devoir cotiser 44 ans au lieu de 43 ans. Est-ce qu'il y a un problème ?
Oui, alors moi j'ai commencé à travailler avant 20 ans aussi. Hein. J'ai commencé à travailler à 19 ans et 5 jours.
Certains commencent plus tôt dans votre secteur.
Certains commencent plus tôt, oui. Alors, de moins en moins.
De moins en moins.
Il faut le dire. Donc, ceux qui vont être... Oui, c'est vrai. Les jeunes font plus d'études aujourd'hui. L'âge moyen d'installation a reculé. On devient agriculteur plus tard. Certains deviennent agriculteurs à 19-20 ans, mais ils sont très rares. C'est plutôt aux alentours de 26 ans maintenant. Et même certains à 40 ans. Donc, les choses changent aussi beaucoup. Les gens changent de métier aussi. Donc, on a des métiers pour débuter, puis d'autres métiers ensuite. Il y a quand même une évolution du travail qui est très importante. Et ensuite, ce qu'il faut regarder aussi... Alors, il y a eu aussi beaucoup d'interprétations excessives, abusives. Moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques de qui est mort en arrivant à l'âge de la retraite ou qui travaille pas. Pour ce qui est des carrières longues, le degré de pénibilité n'est pas le même pour tous. Il y a des métiers à plus de difficultés physiques.
De moins en moins dans l'agriculture, en plus, faut le dire.
Oui, mais enfin, quand même, il y a le climat qui est là. Voilà, nos entreprises à nous, elles n'ont pas de toit. Donc, les chaleurs extrêmes, quand il faut récolter les fruits ou les moissons ou les foins, ou travailler par grand froid, comme en ce moment, pour aller soigner ces animaux. C'est-à-dire qu'on a aussi cette exposition-là. Mais c'est plus difficile à appréhender dans notre métier la pénibilité, parce qu'on n'est pas sur des métiers répétitifs de celui qui arrache le cou du poulet ou de celui qui découpe toujours de la même façon. Nous avons des tâches variées quand on est dans le métier d'agriculteur et même dans le métier de salarié agricole, ce qui fait qu'on appréhende différemment cette question du comptage, de l'appréhension de la pénibilité.
Christiane Lambert, vous avez aussi une autre conviction assez forte au sein de la FNSEA, c'est que le minimum de 1200 euros par mois doit être étendu aux conjoints d'agriculteurs à carrière complète, parce qu'aujourd'hui, ce minimum n'est que de 741 euros.
Alors ça, c'est une injustice énorme, parce qu'à l'époque, les agricultrices n'avaient pas de statut maman marqué sur ses documents administratifs sans profession, ce qui était quand même un comble, alors qu'elles travaillaient énormément, autant que mon père, sur l'exploitation. Beaucoup d'agricultrices n'ont pas fait les démarches pour se déclarer. Certaines d'entre elles ont cotisé moins, mais elles ont travaillé tout autant, et donc c'est un rattrapage que nous souhaitons. Elles ont été rattrapées, elles étaient à 580, elles ont monté à 780, mais imaginez 780 euros par mois, après une vie de labeur. Évidemment, et beaucoup d'entre elles finissent quand même usées, fatiguées, avec aussi des problèmes physiques. Donc c'est un juste retour de reconnaissance.
Et dans votre cas, c'est l'inverse, puisque c'est votre mari qui s'occupe de l'exploitation en semaine, quand vous êtes à Paris.
Oui. Alors j'ai le statut d'agricultrice, je suis agricultrice, parce que je suis engagée professionnelle, et c'est vrai que c'est mon mari qui travaille plus physiquement que moi.
Mais pour revenir à la pénibilité dont on parlait, alors pénibilité qui n'est plus à démontrer évidemment dans votre activité, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'avait été l'usine à gaz des années François Hollande, quand on a mis en place des critères qui ont été supprimés en 2017, qui reviennent par la fenêtre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut mettre ça en place de manière ordonnée pour vous? Est-ce que c'est possible?
Alors, certains critères sont difficilement applicables à l'agriculture. Oui. Je me souviens d'une discussion entre mon prédécesseur et un interlocuteur au ministère des Affaires Sociales où on parlait des vibrations. Oui. Est-ce qu'on travaille en situation de vibration quand on conduit son tracteur? Et là, le jeune homme énarque certainement lui disait alors sur la route, non, mais quand vous entrez dans le champ, oui. Donc on va avoir un beeper pour savoir, là je suis sur la route, il n'y a pas de vibration. Je rentre dans le champ, vibration.
Je vous demande comment est-ce qu'on en sort de ça?
Voilà. On en sort en faisant des choses un peu plus pragmatiques. C'est vrai que c'est une discussion, je sais, à laquelle tiennent beaucoup, ou certains syndicats de salariés particulièrement. Moi, je ne minimise pas la pénibilité dans certains secteurs, mais pour notre secteur d'activité, l'agriculture, travaillant dans les champs, à l'étable, sur le tracteur, auprès des animaux, à récolter, c'est une diversité de situations qui est très, très, très difficile à appréhender. Alors, le fait que ça a été simplifié, nous l'avons salué, et nous souhaitons que ça puisse rester sur les critères simplifiés tels qu'ils avaient été adoptés.
Mais en revanche, les critères ne prennent pas en compte justement la spécificité de votre secteur où vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je vous rassure, on ne travaille pas 24 heures sur 24, on dort aussi. Donc c'est vrai qu'on travaille 365 jours par an.
Voilà,
par
c'est
contre,
ça.
Donc il y a du travail le week-end, notamment quand on est éleveur et qu'on a des animaux. Parce que ça, il faut être en vigilance tout le temps.
Mais ça, c'est pas pris en compte, vous voyez, c'est ça aussi.
Non, ça s'appelle l'astreinte. Et effectivement, ça n'est pas pris en compte. Donc c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à tomber pile poil sur l'appréhension juste. Donc je pense que nous comprenons qu'il faille appréhender cette pénibilité, qui s'appelle aujourd'hui autrement, c'est l'usure professionnelle, donc aucun des mots n'est joli, mais c'est vrai que ça affecte physiquement quand ce sont des tâches physiques, lourdes, répétitives et partant froid, etc. Après, c'est une discussion aussi entre employeurs et salariés. Nous avons un dialogue social qui est assez dense dans notre secteur. Nous avons signé une convention collective unique l'année dernière. Il y a un vrai dialogue social en agriculture et on espère trouver des solutions avec les syndicats de salariés agricoles.
C'est la question que je voulais vous poser, mais je pense que vous venez d'y répondre. Est-ce que vous voyez les agriculteurs entrer dans ce mouvement de contestation des retraites? Non, pas forcément. Est-ce qu'on peut voir demain les agriculteurs
En tout cas, les agriculteurs de mon organisation n'y rentreront pas. Ouais. Je sais que d'autres syndicats ont dit qu'ils y entreraient, mais c'est plus pour des raisons politiques ou des connivences avec certains partis ou certaines associations de protestation. Chacun comprendra. Nous sommes aussi lucides que dans un pays où, dans les années 80, il y avait quatre actifs pour un retraité Et aujourd'hui, 1,7 actifs pour un traité, il faut quand même regarder cette démographie. On vit beaucoup plus longtemps, en agriculture aussi. L'élévation de l'espérance de vie pour les hommes et pour les femmes est une réalité.
Oui.
Et donc, je pense que si on veut garder un régime social qui est quand même bien en France, que ce soit pour les soins, la santé, la petite enfance ou la retraite, il faut regarder objectivement ces réalités démographiques et trouver des solutions.
Alors là, vous me parlez de sujets qui sont en lien avec le long terme. Pour parler de long terme, il faut aussi parler de politique alimentaire durable. Est-ce que la France a une politique alimentaire durable aujourd'hui ?
Plus que beaucoup d'autres pays. Je suis présidente européenne des agriculteurs. Je peux vous dire que l'alimentation à la française est enviée, mais aussi toutes les normes de sécurité sanitaire que nous avons mises en place. Le système prophylactique, le contrôle des animaux, le contrôle des cultures, l'analyse des résidus, des analyses de lait tous les jours chez les agriculteurs, des vétérinaires sanitaires dans les abattoirs qui contrôlent, etc. On a en France, grâce aussi au travail de tous les professionnels de notre secteur, idem dans l'industrie agroalimentaire, avec des systèmes de certification publique qui garantissent la fiabilité pour les consommateurs. Aujourd'hui, en France, on peut se nourrir les yeux fermés, on va pas analyser sa boîte de petits pois chaque fois qu'on l'achète. Il y a aussi des systèmes de rappel avec des systèmes de surveillance qui existent lorsqu'il y a problème. Mais durable, ça veut dire aussi qu'on est capable de pérenniser, parce que la course au prix bas telle que nous la voyons peut pousser à moindre qualité. Et d'ailleurs, ceux qui veulent avoir des produits moins chers, très souvent dans les rayons, ont beaucoup de produits importés. Et nous, nous savons que les conditions d'utilisation de produits phyto ou de bien-être animal ne sont pas les mêmes dans un certain nombre d'autres pays de l'Union et encore moins dans le monde ailleurs.
Voilà le message, les messages que vous vouliez faire passer ce soir. Merci beaucoup, Christiane Lambert, d'être passée nous voir, la présidente de la FNSEA avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, Madame Lambert, d'être passée nous voir ce soir dans notre émission. Voilà, 19h55, c'est terminé.
C'est terminé, Guillaume. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez raté une partie de cette émission, c'est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes, bfmbusiness.fr, ou encore sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans.
Que vous, éventuellement, vous pouvez évidemment saisir avec votre téléphone et vous arrivez sur la page des replays, évidemment, de Good Evening Business. C'est terminé pour ce soir. François Sorel, dans un instant, Tech & Co. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, pour de nouvelles aventures.
Exactement. Bonne soirée à tous.
Demain.